Mesdames, Messieurs, je vous rappellerai, pour commencer ce troisième exposé, que nous avions commencé à analyser la disposition du Panthéon selon les rythmes qui scandent le temps, car c'est à travers ce schéma-là, et uniquement à travers lui, que nous connaissons en réalité le Panthéon mazdéen. Donc, le Yasna 1, c'est le début du long sacrifice solennel, c'est très significatif, dans son 17e paragraphe, dresse la liste des divisions du temps qui le prend en considération. Je vous rappellerai que deux divisions se rapportent au jour, ce sont les divisions Ayara et les divisions Asnia. Une division se rapporte aux phases de la Lune, c'est la division Mahia, du nom de la Lune. Et enfin, deux divisions se rapportent, l'une peut-être, ce n'est pas une certitude absolue, aux divisions de l'année. Ce sont la division Yairia et la Sarda. Mais une interprétation possible pour Sarda est effectivement qu'il s'agisse d'un dérivé du nom de l'année. Dans la réalité, notre information est beaucoup plus faible que cela. Notre information consiste principalement, avec le Yasna 1, aux divisions Asnia, qui sont les différentes phases du jour. Je vous rappelle qu'il y en a cinq, avant midi, le temps de midi, l'après-midi, la première partie de la nuit et la seconde partie de la nuit. Les divisions Ayara, nous n'en savons rien. Il n'en est rien dit. Les divisions Maria ne concernent que la Lune, c'est le Yasna 1-8. La Lune seule est concernée. Les divisions Yairia sont envisagées dans le Yasna 1-9. Elles ne mettent pas en jeu les personnalités divines et il semble, d'après leur dénomination, qu'il s'agit seulement de fêtes agricoles. Alors voilà. Notre information avec le Yasna 1 s'arrête là. Nous pouvons à présent nous poser deux questions, certainement deux questions. Qu'entend-on par division Ayara ? Ce sont bien des divisions de la journée. Et le nom Ayar, Ayan, désigne la journée tout entière, la journée de 24 heures, jour et nuit. Donc nous pouvons nous poser la question, mais le Yasna 1 n'y répond pas. Nous pouvons aussi nous interroger sur la division Sarda, dont il n'est rien dit, et dont il n'est même pas sûr que cela consiste en une division de l'année. Mais nous allons aborder ces deux problèmes parce qu'ils vont nous apprendre certaines choses. Alors, nous allons à présent nous intéresser au nom des jours du mois. Les jours du mois, cela pourrait être les divisions Ayara. Peut-être les divisions Ayara sont-elles effectivement le nom des différents jours du mois. Cela pose évidemment la question du calendrier. Je vous rappellerai que la question du calendrier est une question très difficile. Le calendrier avestique est bien attesté parce qu'un texte qui a été étudié par l'un de nos étudiants italiens, Enrico Raffaelli, certains d'entre vous l'ont peut-être connu dans cet auditoire, n'est-ce pas, et s'appelle le Sirozac, ce qui signifie les 30 jours. Mais ce texte est essentiellement composé de citations pour sa partie avestique. Donc on ne peut pas dire que le calendrier remonte à l'aide du Sirosa. On ne peut pas dire que le calendrier remonte à l'époque où l'on rédigeait encore en avestique, car le Sirosa est un montage pour sa partie avestique. Heureusement, nous avons un autre témoignage. C'est dans l'Yasna lui-même. On ne l'a pas beaucoup dit jusqu'ici. Nous l'avons remarqué ensemble. Mais lorsque, dans le Yasna 16, c'est le préliminaire du sacrifice encore, les officiants viennent d'achever les préliminaires, ils sont maintenant en état de s'adresser directement au Dieu, ils ne peuvent pas le faire avant. Ils ne commencent qu'avec le Yasna 15, où ils lancent l'invitation. C'est évidemment invité, Zbaya, c'est pas j'invite. Et alors, l'invitation est reprise dans le Yasna 16, puis 17, et puis une intercalation du vice-prêtre avec un Yazamaïdé. Une litanie, ce n'est pas comme les Yacht, hein, Ce n'est pas un texte narratif qui va se déplier, qui va se déployer après le Yazamaïdé. Non, c'est la litanie. Nous sacrifions un tel, un tel, un tel. Eh bien, les premières divinités qui sont invitées, après Ahura Mazda, dans la strophe 1, après Zarathoustra, dans la strophe 2, dans l'ordre exact, ce sont les divinités qui patronnent les jours du mois. Nous avons donc un témoignage purement avestique, tout à fait authentique, sur l'existence du calendrier à l'époque où l'on rédigeait en avestique. Ce n'est pas une datation précise, mais ça nous donne au moins cette indication. Ensuite, cela nous démontre que le calendrier avestique, le calendrier iranien pré-islamique, on a mis cela en doute, mais la répartition des paragraphes du Yasna 16 est un témoignage décisif. C'est un calendrier qui est structuré en semaines. Il y a 4 semaines, les 2 premières de 7 jours et les 2 dernières de 8 jours. Chaque semaine est patronnée par la même divinité, par Ahura Mazda lui-même. C'est le jour d'Atouche. Alors nous pourrions peut-être voir à quoi ressemble ce calendrier. Ce sont des mois de 30 jours, donc avec une intercalation de 5 jours à la fin de l'année. Voilà la liste des divinités. J'espère que vous le voyez bien. Petite explication sur le tableau que vous voyez. Il y a 4 colonnes. La première colonne, c'est la liste du nom des jours du mois. Quelles sont les divinités ? Là, en avestique, c'est l'avestique standard, il est de mois, mais c'est la transcription standard de l'avestique. Vous voyez que Ahura Mazda, qui entame chaque semaine, est représenté par le mot d'Atouche, le créateur, si vous voulez, jour du créateur. La seconde semaine vous donne moyen perse standard le nom des jours du mois en moyen perse. Je vous remercie Samraz Arnouche pour avoir donné une forme tout à fait canonique, je vais dire, à la transcription du moyen perse. Alors, la troisième colonne, c'est un peu plus sophistiqué, c'est le titre des Yachts. Le titre des Yachts, mais la forme un peu particulière que vous pouvez observer ici, provient du fait que ce titre, dans les manuscrits qui donnent le titre du moins, c'est le mot moyen perse, c'est le nom de la divinité en moyen perse, mais en écriture avestique. On appelle cela le pazen, moyen perse en écriture avestique. Ça donne une allure un peu étrange au mot, mais bon, respectons l'authenticité du témoignage. Et enfin, en transcription standard, le nom de la divinité dans la 4e colonne, le nom de la divinité à qui le Yacht est dédié. Alors, cela demande peut-être ici un petit commentaire. Bon, premier jour, Ahura Mazda, tout concorde. Le second jour, ce sont les Ameshaspenta, la liste que notre érudition appelle à tort canonique, car je vous ai fait mes réserves et toutes les nuances qu'il fallait il y a 2 leçons, si vous vous souvenez, sur l'appellation Ameshaspenta. Mais c'est très ennuyeux parce que lorsqu'on s'adresse à un auditoire, on ne sait plus très bien comment dire. Or, si vous, dans la littérature traditionnelle sur le zoroastrisme, ces 6 divinités-là sont appelées les Ameshaspenta canoniques, c'est-à-dire la liste de 6 entités subordonnées à Ahura Mazda, qui est le premier. Il y a donc 7 entités. Ça représente une semaine entière, puisque la semaine est de 7 jours. Donc, Vohumana, et ici vous voyez que la correspondance avec le Yacht ne va pas, car le second Yacht est dédié au corps tout entier des Ameshaspenta. Au corps, pas à Vohumana spécialement, pas à la bonne pensée, mais au corps des Ameshaspenta. Alors, l'harmonie très bonne, 3e jour, cela concorde, Asha, le Yacht d'Asha. Kshatravairya, le pouvoir qu'il faut choisir, il n'y a pas de yash de correspondance, c'est une lacune. Spenta armaiti, la bonne pensée adéquate, c'est une lacune également. Hurvatat, Hurvatat, le yasht correspond. Il y a le quatrième yasht et celui de Hurvatat. Armurtat, l'immortalité, pas de yasht. La seconde semaine, le créateur, à nouveau, Atar, premier jour, le feu, il n'y a pas de yasht. Le jour des eaux, Apo, c'est le yasht d'Anahita. Nous allons commenter ce cas particulier. Quatrième jour, Rakshaita, le jour du soleil. Il y a effectivement un yasht du soleil. C'est l'ordre normal des yasht. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le précise si c'est nécessaire. Cinquième jour, Ma, le jour de la lune. Nous avons effectivement un yasht à la lune. Sixième jour, l'étoile Tishtriya, yasht de Tishtriya est le huitième yasht. Puis le jour Gaou, en principe le jour de la vache, mais ce sera un peu plus compliqué, il nous faudra faire un petit commentaire. Le yasht correspondant est celui d'une divinité appelée Dhruvaspa. C'est une déesse, c'est un nom féminin, cela signifie celle qui a des chevaux immobiles, celle dont les chevaux sont immobiles. Datush, le créateur. Mitra, concordance parfaite. Srausha, concordance également. Srausha, n'oubliez pas, nous l'avons étudié l'an dernier, c'est la divinité qui incarne les sonorités rituelles, le dieu des sonorités rituelles. Rachnu, je ne sais pas très bien ce que le nom veut dire, mais il forme couple avec Srausha fréquemment, concordance. Les Fravashi, nous les avons étudiés il y a 2 ans, l'allégorie de la décision rituelle des hommes, les Fravashi, il y a concordance avec le 13e yasht. Vertrakna, le fait de briser l'obstacle, 14e jour, cela marche bien aussi. Alors, l'acolyte de Mitra dans son yasht, Raman, qui est l'allégorie du calme qui règne sur les pâtures, il n'y a pas de yasht à Raman. Raman est toujours invoqué avec Mitra dans l'yasht 10, et l'on trouve à la place le dieu Vayu, dont il faudra aussi commenter la personnalité, donc je m'en abstiens à présent. Puis, le dernier jour de la semaine, c'est le jour du vent, Vata, il n'y a pas de yasht. Dernière semaine, jour du créateur, le jour de la Daina, c'est pas cette âme féminine et pérégrinante des hommes, la Daina, il y a effectivement un hymne à la Daina. Ashi, que nous avons aussi étudié, hein, la déesse du charroi, qui emmène chez les dieux les prières des hommes et qui revient, les retours, hein, c'est le départ et l'arrivée pour Ashi, hein, qui ramène de chez les dieux la contrepartie des offrandes. C'est le 17e yasht, cela concorde. Puis le yasht de Darshtat, la linéarité, c'est une déesse qui est aussi, comme Ashi, une acolyte de Srausha, car c'est la linéarité de la parole, des hymnes qui atteignent l'oreille des dieux. Arshtat. Enfin, le jour du ciel, Asman, il n'y a pas de yasht correspondant. Le jour de la terre, Zamiat. Il y a un hymne, le 19e, qui est à la fois l'hymne de la terre et celui du Kwarna. C'est un texte composite, mais dès l'origine. Et la terre n'est concernée que par les 10 premières strophes, comme j'y ai fait allusion, je pense, la dernière fois. Et puis le texte lui-même, le jour de l'Avesta lui-même, ou plutôt moins peut-être de sa partie ancienne uniquement. Hein, Mantra Spenta, la formule bénéfique. Un texte à Haumba. Il y a une discordance dans l'affectation. Anagra, il faut comprendre avec Anagra, Rauchar, les lumières infinies. Et le texte est très bref, une strophe ou deux, et uniquement concernant une étoile, l'étoile Vanant, que l'on peut s'amuser à traduire l'étoile Vincent, c'est tout à fait exact, c'est le participe présent du verbe vaincre, et c'est l'étoile Vega, semble-t-il, qui joue aussi un rôle dans l'astrologie mazdéenne. Alors, voici à quoi... vous voyez, on peut se poser la question, on se l'est posé bien souvent, de savoir comment nous devons interpréter les concordances tout à fait approximatives, comme vous pouvez le constater, entre le calendrier et le corpus des yasht. Comment interpréter cette irrégularité mais qui n'est pas entière. Nous nous trouvons effectivement devant une situation qui nous rappelle un peu celle de la métrique. Hein. Les octosyllabes sont extrêmement fréquents, mais ne sont pas toujours, mais ne sont pas persistants dans la littérature des Yazhts. Il en va de même des concordances entre les jours du mois et le corpus des Yazhts. Alors, je pense que l'on peut, d'une certaine façon, je pense que cette opinion est partagée par le spécialiste des jours du mois, par Enrico Raffaelli, je pense que l'on peut certainement expliquer cette disparité d'une manière presque satisfaisante. Il reste bien sûr des zones d'ombre, c'est assez normal. Mais on peut atténuer très fortement la disparité. Vous pouvez observer ce premier phénomène, que cette disparité-là, elle est abolie par le texte, par le titre Pazent. Le titre Pazent, regardez, vous voyez que dans, par exemple, le jour, deuxième semaine, le jour des eaux, et le Yazhta Anahita, le titre Pazent mentionne le Yazhta des eaux comme titre alternatif, Avan. Le Yazhta 9, à Druvaspa, remarquez que ici, en avestique, le titre dans certains manuscrits est Gauch Uruné, le Yazht pour l'âme de la vache. Vous voyez, si j'ai mis Gau entre parenthèses, maintenant vous savez pourquoi. Le nom, d'ailleurs, moyen perse, Gauch l'implique. Nous n'avons pas ici le nom de la vache de manière isolée. En réalité, c'est le jour de l'âme de la vache, donc probablement sa part sacrificielle. La part sacrificielle que l'on offre aux dieux. Le 15e Yashtavayu, Manio Ram, le nom de Raman est introduit dans le titre du Yasht. Quant à Shapir, qui figure comme titre alternatif, cela sous-entend que ce Yasht est pour le bon Vayu. Le bon Vayu, car cela ne va pas de soi. Vayu est une divinité ambiguë. Les dieux masdéens ne sont pas ambigus. Mais Vayu, lui, l'est. Il est pour une part bon et pour une part mauvais. Il n'est pas intermédiaire. Hein. C'est tranché. Il est ambigu, réellement ambigu. Bien. Ce sont alors le Yasht 16, le Yasht 18, ça pose de petits problèmes. Mais ils sont, vous voyez que pour le titre et pour le nom du jour, cela ne constitue pas de difficulté. Alors, parfois, lorsqu'il y a disparité, on peut aussi noter certaines affinités. Bon, c'est évident pour le Yasht 5, le jour des eaux et le Yasht Anahita. Les eaux, ce sont toutes les eaux au monde, bien sûr, mais aussi l'eau des rivières. Or, Anahita est une rivière. Anahita est une rivière, c'est une eau parmi les eaux. Donc, il y a des affinités, mais c'est le seul cas facile. Druvaspa porte dans son nom le nom des chevaux. C'est le jour de l'âme de la vache. Bon, affinité animale, si l'on peut dire. On peut voir que Vayu, il n'y a pas d'affinité avec Raman, mais il y en a une avec Vata, avec le jour qui suit et qui n'a pas de Yasht, avec le nom du vent. C'est une affinité qui vient peut-être de l'apparence du nom. Vata est un dérivé du verbe souffler, va. Il n'est pas du tout sûr que Vayu, lui, dérive du verbe souffler, c'est possible, mais peut-être de l'autre verbe va, savoir être vide. Il est peut-être l'incarnation de l'espace vide, ce qui est une très belle idée philosophique. L'entité de l'espace vide, Vayu. C'est l'autre possibilité, mais les noms sont ressemblants. Il y a une synonymie. Hauma. C'est intéressant, le jour du texte, le jour du mantra spenta. Oui, mais Hauma est la divinité, au fond, qui inaugure le yasna. Hein. Le pressurage de Hauma est l'un des premiers actes sacrificiels, après quelques litanies d'usage, qui soient posés dans le yasna. C'est la divinité inaugurale de l'Avesta, qui, oui, a d'ailleurs, dont le texte constitutif a peut-être donné son nom à l'Avesta lui-même. Si l'Avesta représente Upastavaka, l'éloge avec le préverbe Upa, stu avec le préverbe Upa, c'est une possibilité pour expliquer le mot le nom Avesta, Upa, Stavaka. avec le préverbe ou pas, le verbe louer. Or, ce verbe est un verbe technique de la liturgie du pressurage de Hauma. Lorsque l'on loue Hauma, on emploie le préverbe ou pas. C'est la seule divinité pour qui qui soit indissociable du préverbe dans la terminologie de l'éloge. Or, c'est l'acte inaugural du sacrifice. Donc, il y a une affinité possible. Alors, une étoile, évidemment, et les lumières infinies, on peut aussi, d'une certaine façon, comprendre. Alors, cela remonte à plusieurs années, aux années 60, l'iranologue italien Bellardi a émis, ce qui je crois parfaitement accepté, l'hypothèse des valences. Lorsque l'on voit, en regard du nom de Vohumana, le deuxième jour, un hymne aux Ameshaspenta, on peut imaginer que cet hymne aux Ameshaspenta peut valoir pour tous les Ameshaspenta de la liste, c'est-à-dire tous les jours, tous les noms de la première semaine, et qu'il est élargi le jour d'Achat de l'hymne propre à Achat et au jour de Hurvatat de l'hymne propre à Hurvatat. C'est une possibilité. Donc, une des lacunes, si vous voulez, qui est déjà profonde après la première semaine, est ainsi comblée. On pourrait aussi imaginer, selon cette façon, l'hymne de Vayu est aussi une valence 2, c'est-à-dire qu'il vaille à la fois pour le jour Raman, comme l'indique son titre en Pazent, mais aussi pour le jour du vent. C'est donc une hypothèse qui peut convenir. Il est possible que la même situation vaille pour le jour du ciel et le jour de la terre, puisque les 10 premières strophes du Yashte 19 sont dédiées à particularité de l'espace terrestre, ce sont les montagnes, c'est-à-dire cette part de la terre qui est en contact avec le ciel. C'est une possibilité. Alors, il reste une lacune, elle est béante. Elle est béante, c'est le feu. C'est le feu. Il n'y a pas de texte au feu. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, mais je ne pense plus la même chose. Alors, je vous rappelle l'hypothèse que j'ai émise devant vous jusqu'ici, c'est que le feu, n'étant pas une divinité, c'est un dieu sacerdotal, on peut le dire, c'est donc un moyen du sacrifice. On ne sacrifie pas au feu. On l'allume, on le loue, on lui rend hommage, mais on ne lui sacrifie pas, parce qu'il est lui-même l'instrument du sacrifice. On ne sacrifie pas l'instrument du sacrifice. On ne sacrifie pas au feu, on sacrifie par le feu. Dès lors, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte disponible. C'était l'hypothèse à laquelle m'en tenais. Notez qu'elle est vraie en partie. Vous allez voir ressurgir cette idée d'une façon dans le raisonnement que je vais tenir devant vous maintenant. Mais remarquez la première semaine, la semaine des Ameshaspenta, comme je vous disais. Or, d'où vient à l'origine cette idée d'Ameshaspenta, de ce département très spécifique du Panthéon? Je vous l'ai déjà exposé, mais je vous le rappelle. Il était courant dans la littérature antérieure à 1980, avant la démonstration de Johanna Narten, de considérer que le terme d'Ameshaspenta, cette manière de désigner les dieux par deux qualités, Amesha, immortel, Spenta, bienfaisant, n'était pas attesté dans l'Avesta ancien. Mais on réduisait à cette époque l'Avesta ancien au seul kata. Or, Ameshaspenta est bel et bien attesté dans le Yasna Haptankaiti, c'est-à-dire la partie en prose de l'Avesta ancien. C'est même la seule manière de désigner les dieux dans le Yasna Haptankaiti, qui, il est vrai, n'est pas bien long. Mais tout de même, c'est le titre exclusif. Et on ne peut pas en douter, comme l'a montré Johanna Narten, parce que l'effet est, comme très souvent dans l'avestique, l'effet rhétorique, c'est l'enveloppement, l'encerclement. Avant que la partie proprement sacrificielle du Yasna Haptankaiti commence, eh bien, on commence par désigner les Ameshaspenta. Et puis, lorsque l'opération est terminée, on revient avec le titre Ameshaspenta. Donc, la désignation de la liste divine que l'on va avoir est désignée au départ comme Ameshaspenta, en introduction, et puis en conclusion. C'est l'effet d'encerclement qui est extrêmement apprécié des auteurs des auteurs indo-iraniens en général, mais des auteurs de l'Avesta en particulier. Or, ces chapitres, ces yasht, si je peux me dire comme ça, ce sont des, c'est une litanie en yazamaïdé, mais avec tout de même certains développements, comportent trois chapitres. Le yasna abtankaiti va du chapitre 35 au chapitre 41. Les deux premiers chapitres sont introductifs. Nous avons parlé du chapitre d'ailleurs l'an dernier consacré au feu, le 36e. Puis les deux derniers chapitres constituent un autre type, c'est un varma, c'est-à-dire une sorte de prière, c'est une demande, c'est des demandes adressées aux dieux. Or, la partie proprement yasna se trouve donc représentée par les chapitres 37, 38 et 39. Dans le chapitre 37, Ahura Mazda est six entités, dont les quatre premières mentionnées sont très exactement les quatre premières de la semaine, de la première semaine, à cette nuance près que Asha est mentionné avant Vohumana. Ce qui est normal, car dans l'Avesta ancien, si on s'en remet à la statistique pure, Asha est plus fréquent que Vohumana. Donc, les entités de la première semaine. La seule différence, c'est que les deux entités féminines qui clôturent la liste, ce ne sont pas celles-là, ce sont deux autres. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici, je l'ai fait plusieurs fois. Mais ce qui est peut-être significatif, c'est que les deux entités qui composent le groupe dans l'Avesta récent, et tout spécialement dans le calendrier, sont deux divinités dont le nom n'est pas mentionné dans l'Yasna Abtankaiti, mais qui proviennent des Gathas. Donc il y a eu substitution de des deux dernières entités féminines en se rapportant à la tradition gathique. Le 38, un certain nombre de femmes divines, que l'on appelle les Gunas. Ashi, par exemple, en fait partie. Ashi en fait partie. Des Gunas. Et surtout, les eaux. Les eaux. Là, le développement devient lourd, comme pour Ahura Mazda. Trois strophes sont consacrées aux eaux. C'est long. On abandonne la litanie. On abandonne la litanie avec les eaux. Donc, un élément naturel. 39, des âmes. Des âmes urvanes, donc les âmes intérieures. Celles des hommes, celles des animaux domestiques. Celle des animaux sauvages pourvu qu'ils soient inoffensifs. Bon, il y a une litanie aussi. Mais il y a bien sûr l'âme de la vache. Elle ouvre la litanie. Gauchurvan. Mais aussi, et là, ce n'est plus une âme, quelqu'un d'autre qui est Gauchtachan, ce qui signifie celui qui a construit la vache, qui l'a construit comme travaille un menuisier, c'est taillé. C'est la taille du menuisier, Tachan. Or, qui est ce Gauch Tachan qui a construit la vache? Je vous ai donné mes soupçons, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué déjà mes soupçons. Je crois qu'il s'agit ici aussi d'un effet de l'euphémisme antiphrase. Je crois que c'est une fonction sacerdotale. C'est celui qui, après que la vache ait été immolée dans le sacrifice, l'a reconstruit. C'est-à-dire rassemble les morceaux débités sur la jonchée rituelle. Comme cela est attesté quelquefois, ce serait donc celui qui, d'une certaine manière, après l'immolation, répète l'action divine de création de l'animal. Vous savez, ça pose un problème. Nous verrons peut-être si nous revenons au Gatha, comme j'en ai l'intention l'an prochain. Mais le Yasna 29 se débat avec ce problème, n'est-ce pas? Nous allons tuer une vache. Nous allons tuer une vache pour sacrifier, pour plaire aux dieux. Mais cet animal, nous allons déconstruire, faisant cela, quelque chose que les dieux ont construit. C'est une situation qui est embarrassante, qui aussi, d'ailleurs, n'est-ce pas, on l'observe aussi dans le Rig Veda. Comment faire, n'est-ce pas, dans l'ordre du grand l'hymne 1162 sur la Jvameda, le grand sacrifice du cheval, il faut justifier ce qui va se passer parce que c'est une création divine qui est défaite. Eh bien, une façon de s'en tirer est celle-là. À un moment donné, symboliquement du moins, on reconstruit. Et voilà, voilà donc les observations que l'on peut faire. Alors, remarquez bien que la structure des Amushaspenta antiques, ceux de l'Avesta ancien, ceux que mentionne le Yasna Abtankariti, est très particulière. Ce n'est pas la liste canonique que l'érudition occidentale, durant le XIXe et la plus grande partie du XXe siècle, a voulu analyser. C'est un panthéon global. C'est un panthéon global où les départements de la nature jouent un rôle. Or, cette structure-là, dans l'Avesta récent, elle s'effiloche, mais pas entièrement. C'est-à-dire que dans certains passages du Yasna, les Amushaspenta, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus que la liste dite canonique que vous observez dans la première semaine. Le Yasna 1.1, qui nous a bien servi jusqu'ici, le Yasna 1 nous a beaucoup servi, il peut encore nous servir. Le Yasna 1.2, dresse la liste des Amushaspenta. C'est celle-là. Ce sont les six que vous observez la première semaine. Mais il y a trois autres qui clôturent la liste. Les autres, c'est Atar, nommément désigné comme Amushaspenta. J'aurais quelques réticences à admettre que Atar soit un Amushaspenta, mais je ne peux plus en douter, en raison de ce que je vous ai dit tantôt. Le feu est un dieu sacerdotal. Je ne vois pas ce qu'il fait dans la liste, mais je ne peux pas mettre en doute le témoignage du Yasna 2 qui le dit explicitement. Atar, c'est celui des Amushaspenta qui est le premier à prendre place rituelle. Prendre place rituelle, le verbe yat. Il est le premier à faire cela. Vous comprenez pourquoi, parce qu'on ne peut rien faire avant que le feu soit allumé. Mais c'est le premier des Amushaspenta. Il fait donc partie de la série. Nous ne pouvons pas le mettre en doute. Et puis, Gaushovan et Gaushtashan. Il y a donc dans le Yasna 1.2 de la Vestique récent, qui ouvre le grand rite du Yasna, un reflet du panthéon du Yasna Abtankariti. Ce n'est pas la liste canonique seulement. Pas seulement la liste canonique. On se rapproche de la liste canonique, mais la liste est encore ouverte. Et elle est ouverte, bien, aux divinités du Yasna Abtankariti, bien sûr. Alors, regardons le calendrier d'une autre manière, si vous voulez bien. Regardons-le d'une autre manière. La première semaine, la seconde semaine. Atar, Amushaspenta, selon le Yasna 1.2. Les eaux. Amushaspenta, ô combien, au centre du Yasna Abtankariti. Dans le chapitre central, si la notion rhétorique d'omphalos, qui est si chère à certains de mes collègues, est exacte, et elle l'est certainement, bien, les eaux occupent la place centrale dans le rite du Yasna Abtankariti. Alors nous avons, bien sûr, les corps célestes, le soleil, la lune, Tishtriya, et puis Gaushovan. La liste qui figure dans la liste du Yasna 1.2. Alors, les choses étant vues comme cela, cette seconde semaine prend une autre apparence. Les divinités que nous avons dans la deuxième semaine, ce sont des divinités qui, soit font partie du corps des Amushaspenta, pour l'Avesta récent, pourvu que nous considérions que le calendrier a été constitué à une époque où la liste était encore ouverte, et d'autre part des corps célestes, qui viennent s'insérer d'une certaine manière entre les eaux et Gaushovan. Alors cette remarque-ci, bien sûr, peut nous aider, je pense, à comprendre un petit peu mieux la situation devant laquelle nous nous trouvons. Alors je vais tirer ces conclusions, si vous le voulez bien, avec vous, en posant un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a un rapport, comme on en a tant discuté, entre les noms des jours du mois et les yashts? Bien, je crois sans aucun doute, malgré quelques imperfections, parce que la plupart des imperfections sont réductibles. Deuxième question que l'on peut se poser, cela aussi a été débattu longtemps, est-ce que le calendrier s'ordonne d'après le corpus d'Eyecht, ou est-ce le corpus d'Eyecht qui a été constitué selon le calendrier, dans le souci évidemment de constituer un corps de récitatif liturgique destiné à être récité lors du sacrifice à ces divinités, hein, pendant le jour qu'il patronne. Eh bien, je dirais que le calendrier préexiste. C'est le corpus d'Eyecht qui a été fait d'après le calendrier. Le corpus, hein, je ne parle pas du texte. Le texte, nous allons y finir plus tard. Hein. Les textes préexistent, bien sûr. Mais la mise en corpus, la constitution d'un assemblage, d'une anthologie de textes destinés à magnifier les jours du mois. Eh bien, et ça pour plusieurs raisons. Je crois que le calendrier préexiste parce qu'il y a une raison triviale et que j'exprimerai trivialement. C'est que les auteurs du corpus ont fait avec ce qu'ils avaient, visiblement. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient encore. C'est-à-dire qu'ils ne rédigeaient plus. Car si on avait voulu, évidemment, donner un récitatif liturgique propre à certains jours du mois, on aurait écrit un texte. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé des textes préexistants et qui, parfois, ne collent que très approximativement. Je crois que les approximations, les disparités que nous avons analysées sont dues en très grande partie à cela. C'est que le corpus est une entreprise tardive par rapport au calendrier lui-même. Alors, il y a une deuxième raison. C'est que le calendrier a été constitué à une époque où la liste des Ameshaspenta était encore ouverte. Accessoirement, mais ça n'est pas sans importance, c'est plutôt un corollaire qu'un accessoire, je vous ferai remarquer que ceci infirme une vieille hypothèse qu'on lit très fréquemment, c'est que la réduction du corps des Ameshaspenta à 6 entités avait pour visée la constitution du calendrier. C'est le calendrier qui aurait joué un rôle décisif dans la réduction du nombre, la création d'un corps particulier de divinité. Non, puisque le calendrier connaît encore d'autres Ameshaspenta. La liste était encore ouverte quand le calendrier a été constitué. Cela, nous le savons déjà, je vous ai déjà exposé mon opinion à cet égard avec mes arguments. Le Yasna 16 nous montre, les citations qui suivent le Yasna 16 montrent que, ici, et c'est peut-être un fait surprenant, mais que nous avons beaucoup évoqué l'année dernière, si vous vous souvenez, c'est le rôle immédiatement important qu'a joué dans l'élaboration de la doctrine masdéenne l'exégèse des textes antérieurs. Chaque époque interprétant les textes antérieurs, ce rôle de l'exégèse a été immédiat. Et la réduction des entités, la constitution plutôt, d'un corps spécifique de 6 entités avec un statut spécial, finalement un titre spécial, celui d'Ameshaspenta, est le résultat d'une exégèse textuelle. Il illustre tout simplement le fait que dans le chapitre 3 du Yasna Haptankaiti, qui est pour nous le chapitre 37 du Yasna, il y a 7 entités, Ahura Mazda et 6 abstractions. Le premier mouvement, le fait que le Yasna Haptankaiti et 7 chapitres, il le porte dans son titre. Pas les exégètes, faut pas croire, n'allez pas croire surtout que ces exégètes ne structuraient pas le texte comme nous. Le titre du Yasna Haptankaiti implique qu'il a 7 chapitres. Donc on peut faire le compte de ces chapitres. Eh bien, le chapitre 37, c'est un chapitre qui est consacré à 7 entités, Ahura Mazda et 6 autres. Et cette exégèse a été décisive. Ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas l'opération du calendrier qui a joué, c'est l'exégèse des textes. Bien, alors, excusez-moi, maintenant, il y a un troisième argument, et il est fort intéressant, nous allons y venir. Les divinités scandent le rythme du temps. Vous disais, il y a Deratu Asnia, venons peut-être d'identifier avec le corpus d'Eyecht des calendriers les Ratu Ayara. Mais les Ratu, ces articulations, ne sont pas que les articulations du temps. Il y a d'autres Ratu. il y a les ratous des diverses parties de la Terre. Nous n'avons qu'un tout petit fragment. Il n'y a rien à dire là-dessus. Nous ne savons pas quelle divinité précisément patronne les divisions de l'espace terrestre. Il y a aussi les ratous des espèces animales, les animaux qui se meuvent sur la surface de la Terre, les animaux qui se trouvent dans l'eau, les animaux aquatiques, les animaux qui volent dans l'air, qui sillonnent le ciel. Eh bien, ces divers types d'animaux ont leur ratou. Nous ne savons pas non plus quelles sont les divinités qui les patronnent, mais il y a encore autre chose. Et cela, nous avons des témoignages. C'est les textes. Hein? Il y a des ratous qui patronnent, qui sont les ratous de certains textes et de la durée de leur récitation. Il y a les deux choses. Hein? Le temps est réintroduit de cette manière. Le texte, bien sûr, mais le texte consacré à cette divinité occupe un temps rituel, le temps de sa récitation. Or, cela, nous en avons quelques témoignages. Le Yasna 1, à nouveau, le Yasna 1 fait très sûrement, dans ses paragraphes 11 à 16, le catalogue des textes qui vont être utilisés. Oui. Et alors, les divinités à qui ces textes sont consacrés sont aussi des ratous. Ce sont les articulations d'un ensemble. Et en l'occurrence, les ratous, ces ratous textuels sont définis par un curieux mot, parce que je ne le comprends pas bien. Ils sont Pairi Havani. Oh, Havani, nous le connaissons bien. C'est un ratou, une période du temps qui a ses ratous. C'est le matin, c'est l'avant-midi, hein, c'est du lever du soleil à midi. Les divinités de ce moment-là, c'est Mitra et son acolyte Raman, les dieux Ororo. Alors, ce que je ne comprends pas bien, c'est Pairi. C'est Pairi. En principe, c'est tout autour, hein, c'est le grec Peri. Hein. Comment le comprendre avec Havani? Je pense qu'ils sont disposés autour du temps Havani. Est-ce que on veut dire par là que ce sont les textes qui vont ceinturer le rite Havani, le temps du sacrifice qui commence le matin, c'est peut-être bien. Or, comme vous le voyez, il y a cinq paragraphes. Le premier mentionne, oui, vous l'avez donc ici, d'abord Advandva. Ahura Mitra, c'est-à-dire dire Ahura Mazda et Mitra. Ahura Mazda et Mitra. Ensuite, les étoiles, dont l'étoile Tishtriya, qui est la seule mentionnée. La lune et le soleil. La lune et le soleil. Paragraphe 12. Le feu, les eaux, les plantes. Le 13e paragraphe énumère des textes. Le mantra Spenta, que nous avons observé dans son rôle calendaire. Le Data Vidaiva, la loi de rupture avec les démons. La Data Zarathustri, la loi qui se rapporte d'une manière ou d'une autre à Zarathustra. Alors, un texte dont nous ne savons très sûrement rien, Darga ou Payana, le fait d'accompagner longtemps. Le fait d'accompagner longtemps, ce n'est pas du tout ce que c'est. Et puis, un texte qui se rapporte à la Daïna. Donc, ces titres-là ne sont pas mentionnés par le nom des divinités à qui ils sont consacrés, d'ailleurs, ce sont probablement des textes plus généraux, mais par une sorte de titre. Alors, le paragraphe central, et c'est le paragraphe que nous avons déjà utilisé lors de la dernière leçon pour... remarquez que le Yasht 19, dans son étrange combinaison thématique entre un passage consacré aux montagnes et un passage consacré au Kwarna, cela reproduisait une situation ancienne, puisque ici, vous voyez, une montagne, et puis toutes les montagnes, montagne particulière, le Ushidharna, toutes les montagnes, et puis les différentes sortes de Kwarna. Il joue le rôle central. C'est probablement pas un hasard, mais nous ne disposons pas d'éléments pour analyser cette situation. 15e paragraphe, à nouveau, la construction est en miroir. on revient à des textes qui sont définis par un titre. La Dharma Afriti, dont nous avons parlé, c'est le Yasna 60, dont nous avons parlé l'an dernier, la propitiation experte. Enfin, les deux derniers, le dernier paragraphe, le 16e, on revient à des textes qui ne sont plus définis par des titres, mais par les choses à quoi ils sont consacrés, les emplacements. Je ne sais pas trop comment dire, j'ai dit emplacement, mais ce sont les endroits intéressants de l'espace terrestre. Que sont ces endroits intéressants? Les bonnes terres de pâture, les points d'eau, les lieux où l'on peut faire halte, les guets sur les rivières où on peut traverser l'eau. C'est ça, c'est ce type d'emplacement qui est envisagé. Enfin, la terre, le ciel, le vent, les étoiles, puis à nouveau les étoiles, la lune et le soleil, et puis les lumières infinies. Paragraphe 17, c'est clôturé. C'est là que nous trouvons la liste de toutes les périodes envisageables que l'on installe dans la durée. Bien, alors, voilà. Je voudrais vous faire remarquer d'abord une chose. Il y a des absents. Il y a des dieux absents, des dieux importants qui ne sont pas mentionnés ici. Il y a... les dieux du calendrier, ce sont les dieux de la troisième semaine, n'est-ce pas, après Mitra. On ne trouve pas de traces dans Seratu Pairishavani de Sausha. On ne trouve pas de traces d'Efravashi. On ne trouve pas de traces de Vrtrakna. Or, ces divinités ont toutes quelque chose en commun. Ce sont les divinités de la nuit. Ce sont les divinités de la nuit. Les Fravashi sont les divinités de la première partie de la nuit. Sausha est la divinité de la seconde partie de la nuit. Il est normal qu'il soit absent. Encore une fois, n'allons pas chercher là-dedans des crises ou des controverses religieuses, ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais nous avons un rite Havani, nous avons un rite qui commence à l'aurore et qui s'achève quand le soleil se couche, n'est-ce pas ? Dès lors, les divinités de la nuit sont nécessairement absentes du corpus textuel qui va être utilisé. Alors ici, j'aimerais quand même... il faut que nous soyons très restrictifs. J'insiste très fort là-dessus. C'est peut-être la chose la plus originale que nous sommes en train de dire et d'étudier ensemble pour l'instant. C'est combien notre matériel informatif que représente le plus ancien document mazdéen est restrictif. Nous ne connaissons du panthéon mazdéen, de son polythéisme, qui a été tellement discuté dans l'abstrait, d'une visée théologique, nous ne connaissons que l'organisation de ce panthéon selon la durée, selon les phases de la durée. Et l'organisation est différente selon la perspective. Un panthéon structuré selon un rite qui commence à l'aurore n'est pas un panthéon structuré selon un rite qui commence à minuit. Donc, tout ce que nous pouvons dire sur les relations des divinités entre elles se trouve simplement résumé par cette organisation-là. Le corpus des Yashta, ils sont parfois narratifs, ils nous apprennent des choses, c'est vrai. Mais vous avez vu qu'eux aussi reproduisent une situation. Ils représentent aussi une structure qui est calquée sur la structure du temps. Donc, toute notre information est extrêmement dépendante de ces facteurs-là. Alors, bien sûr, nous avons un rite Havani dans le Yasna. Le texte du Yasna qui nous est parvenu, c'est sa variante Havani. Il y en a eu d'autres. Nous avons la trace d'une autre, n'est-ce pas ? Lorsque le Yasna est récité avec l'insertion du Videvdat, le rite ne commence pas au matin. Il commence à minuit. La durée doit être plus grande et il y a un texte supplémentaire à réciter. Alors, le Videvdat Sadeh, comme on l'appelle, n'est pas un rite Havani, c'est un rite Ushahinda. Il commence à minuit. Or, dans ce rite-là, la présence de Sausha est essentielle. C'est le dieu de la seconde partie de la nuit. Mais nous n'avons pas véritablement le texte du Yasna est devenu Nevarietur, n'est-ce pas ? Nous n'avons que quelques petits éléments qui nous enseignent qu'à une certaine époque, sans doute, où l'on n'avait plus de souplesse à utiliser les textes anciens, et cette souplesse s'est perdue avec le temps. Les textes pouvaient différer selon qu'on était dans un rite Ushahina ou dans un rite Ravani. Ça dépendait de cela. Il reste des lambeaux de cela, n'est-ce pas ? C'est cette espèce d'immense variété de la place de Straucha dans les litanies du Yasna. De temps en temps, il n'est pas là, comme ici. Non, en Italie, il n'est pas ici. C'est un rite à vanité textuelle. Parfois, il vient à la fin. Eh oui, parce que la seconde partie de la nuit, c'est finalement la partie du jour la plus éloignée du lever du soleil. Et parfois, il est essentiel. Il vient en tête d'énumération, avant les Ammeshaspenta eux-mêmes. Oui, et bien cela, c'est parce que c'est certainement le vieux reflet de sa place réelle lors d'un rite ou Shahina. Ça, c'est la première remarque que nous pouvons. Donc, excusez-moi, je ne sais plus très bien où j'en étais. Oui, la place centrale de ce panthéon. Et certainement. Alors, je voudrais vous faire remarquer autre chose si vous regardez bien la liste de ces ratouches par Yavani. Remarquez bien combien Ahura Mitra, si nous observons bien la composition du paragraphe 11 et du paragraphe 12, et si nous la rapportons à la structure du calendrier, bien sûr en imaginant que Ahura Mazda qui vient en tête suppose nécessairement les six entités de la première semaine. Nous avons ici l'espace du calendrier entre le jour d'Ahura Mazda, le premier jour du mois, et le jour de Mitra. Et le jour de Mitra, le 15e jour du mois. Les étoiles, dont Ishtria, le Yashte 8, la lune et le soleil, le Yashte 7 et 6, le feu, ce qui est le second jour de la deuxième semaine, les eaux, le troisième jour de la semaine, avec le yashte 5, et les plantes n'ont pas leur yashte, elles n'ont pas de jour, bien sûr, mais elles sont entraînées d'une certaine façon par les eaux, comme c'est si fréquent. Donc, les deux premiers paragraphes est composé de telle sorte qu'on y retrouve les ingrédients, si je puis m'exprimer ainsi, de la première partie du corpus des Yashts et de la première partie du calendrier. Et d'une certaine manière, mais avec une certaine, peut-être un peu plus d'approximation, le 16e paragraphe, le dernier, réunit beaucoup d'ingrédients de la dernière semaine du mois. De la dernière semaine, nous trouvons la terre, nous trouvons le vent, les lumières infinies, mais il y a répétition des corps célestes. Et on a pu y reclasser, évidemment, les montagnes qui sont les yachts correspondants à la fois à la terre et au ciel. Donc, je crois que dans la liste de ces ratouches par Iri Havani, nous avons quelque chose qui n'est pas le calendrier, mais qui ressemble au calendrier. Je ne peux pas m'exprimer de manière plus précise, malheureusement. Je n'ose pas employer le mot préfiguration. Je n'ose pas, parce que je ne sais pas si c'est correct. Est-ce une préfiguration du calendrier ou pas ? Mais ça nous semble tout de même indiquer que la structure du calendrier, c'est-à-dire du nom des jours du mois, et fatalement, puisqu'il lui est subordonné, la structure du corpus des Yashts est une structure inspirée d'une liste Pairish Havani, de la liste Pairish Havani. Il y a une liaison évidente, approximative elle aussi, mais évidente entre les deux structures. Ne me demandez pas d'en tirer trop vite des conclusions, je ne m'en sens pas tout à fait capable, parce que nous ne voyons pas bien comment dire les choses autrement. Nous pouvons seulement pour l'instant, entériner ce système de correspondance et peut-être lui donner un cadre chronologique relatif. C'est le mieux que nous puissions faire et c'est ce que nous allons essayer de faire. Je pense que nous avons, la dernière fois, je vous ai donné des éléments de chronologie relative, nous avons parlé d'un Avesta ancien, oui, c'est le premier stade, c'est celui que nous devons évidemment, bien entendu, envisager en premier. Puis je vous ai dit, entre la littérature des Yasht et du Yasna et cet Avesta ancien, il y a très certainement le stock octosyllabique qui a été utilisé pour dont les clausules ont été exploitées pour composer les Yasht, certainement. Mais ce n'est pas cela que je veux dire ici. Je pense que dans les opérations que nous envisageons, on peut voir les choses comme ceci. Il y a quelque chose, je pense, qui, à cause de la place que cela tient dans les textes respectifs, semble former une sorte de conglomérat et qui est la constitution d'un rite qui est celui du grand rite solennel, du Yasna, avec certaines variantes que nous suspectons, selon le moment de la journée où le rite est rendu, selon la décision que l'on prend à ce sujet-là. Nous n'avons plus que la variante Havani, mais bon, nous suspectons, nous observons les traces des autres. Ensuite, une littérature aussi de Yasht. Une littérature de Yasht, je mets l'astérisque de la restitution parce que nous en avons certainement des morceaux, et des morceaux parfois très longs, mais comme je vous l'ai exposé la dernière fois, les Yasht que nous possédons sont des assemblages où nous trouvons des textes qui ne sont pas rhétoriquement parlant véritablement des Yasht, c'est-à-dire des textes en Yazamaïdé, mais qui forment tout autre chose. Donc la littérature Yasht, purement Yasht, est certainement composée à cette époque. Nous en gardons un très bel exemple, c'est le Yasht de Straucha. Or, le Yasht de Straucha, qui est interne au Yasna, est un Yasht pur, et il y a un système de correspondance, n'est-ce pas ? Car, puisque, souvenez-vous, l'an dernier, le dieu Straucha est évoqué pour trois raisons, en fonction de trois sacrifices. Le sacrifice qu'il a été le premier à rendre à Ahura Mazda et aux Ameshaspenta. Il est le premier sacrificateur à l'époque où le monde était matériel. Bien. Premier sacrifice. Deuxième sacrifice, c'est le sacrifice courant, celui que les hommes rendent aujourd'hui au dieu Straucha. Troisième sacrifice, c'est le sacrifice d'intronisation, en quelque sorte, que les dieux ont rendu eux-mêmes sur l'instigation d'Ahura Mazda pour investir Straucha de sa fonction. En quelque sorte, sa personne divine et la fonction qu'il va tenir dans le monde, la protection du monde, oui, sa fonction sera toute la nuit aussi, tout cela, eh bien, il en est investi par un sacrifice archétypique que les dieux lui rendent. Ahura Mazda installe Hauma comme Zautar et Hauma va donc accomplir ce sacrifice. Voilà les trois sacrifices. Donc nous avons ici un texte parfaitement Yasht. Eh bien, ces trois sacrifices, que nous raconte-t-il ? Bon, il nous parle de diverses phases rituelles. Or, ces phases rituelles sont celles que nous observons dans les Yasna que nous avons. Il faut pressurer le Hauma, c'est ce que l'on fait. Il faut faire la déclaration de choix rituel, Fravarané, je veux rendre le sacrifice à telle divinité. Il faut faire une déclaration d'admiration pour les dieux, pour le monde, pour l'harmonie du monde. Burge, nous l'avons dans l'Yasna 15. Il faut réciter l'Avesta ancien, nous l'avons. Donc la structure du Yasna que nous possédons et le Yasht de Straucha sont des faits que nous ne pouvons pas situer en antériorité ni en postériorité, puisque le Yasht de Straucha raconte la structure du Yasna et la structure du Yasna implique le Yasht de Straucha. Nous sommes donc dans une époque extrêmement unitaire, n'est-ce pas ? Bien entendu, toutes ces choses ont été ajustées selon une certaine chronologie, mais l'entreprise est unitaire. Or, cela, c'est un stade que nous envisageons. En fonction de cette structure, on va élaborer le calendrier. Et puis, un jour, il y aura souci d'offrir aux dieux qui ont donné leur nom au jour du mois un corpus de récitatifs liturgiques. Et là, c'est la mise en corpus du texte que nous connaissons sous l'appellation des Yasht et que j'écris cette fois, bien sûr, sans l'astérisque, parce que ça n'est plus une restitution, ce sont les textes que nous avons. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal. Nous ne pouvons pas dire c'est en l'an un tel, ça, nous ne pouvons pas, mais nous avons restitué une chaîne d'entreprise, nous avons restitué une chronologie relative. Nous allons nous quitter sur... je vois qu'il est l'heure, nous allons nous quitter sur cette remarque-là. Retenez deux choses, le caractère restrictif de notre documentation et tout de même les petits schémas de chronologie relative que nous pouvons arracher à l'obscurité des temps et d'un texte. Je vous remercie.